Tu cherches la meilleure appli pour parier sur tes matchs préférés? Télécharge Unibet. Unibet, c'est la possibilité de parier sur plus de 200 paris par match. Résultat du match, buteur, score exact, c'est à toi de choisir. Inscris-toi dès maintenant et profite d'un bonus exceptionnel. Unibet, par les joueurs, pour les joueurs.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Non, là-dessus, vous êtes en retard et vous avez le pied au niveau de la chaussure. Je n'en veux plus. C'est clair? Vous voulez un soin ou ça va aller? Vous voulez un soin?
Condamné. Oh là 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 là. C'est plus une pression, là, je suis déjà au pilotis.
Je vous ai dit, je vais pas me flageoler tout seul.
C'est vraiment un casse-pipe chinois.
Vous voulez un soin ou ça va aller?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Prendrait bien un petit soin. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after en direct 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast direct à la radio, direct sur YouTube également, la chaîne de l'after, @after-foot. Merci d'être là, déjà nombreux en ce jeudi soir à 2 jours. Enfin du grand début de l'Euro. L'équipe ce soir, Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
On est en direct jusqu'à minuit. Dans quelques instants, on poursuit notre feuilleton préféré du moment, les droits télé, avec Philippe Diallo qui a parlé aujourd'hui. On l'écoutera et on donnera notre avis. L'Euro, c'est dans 2 jours, je le disais. On sera en direct d'Allemagne ce soir avec Nicolas Pelletier, qui fait partie de l'équipe RMC sur place, qui vous fera vivre cet Euro. Il nous donnera les dernières infos, notamment aujourd'hui on a parlé arbitrage avant le début de la compète. Pas mal de petites infos, de nouveautés que va nous présenter Nico. Et puis 22h30, on s'intéresse à l'équipe de France à 5 jours du premier match face à l'Autriche. Quelle animation offensive pour les Bleus. Vous nous appelez au 32-16 et vous venez en débattre avec Daniel, avec Kevin. L'Euro, il en sera question avec Xavier Barré, que vous connaissez dans l'After, journaliste qui sera là avec nous en fin d'heure. Il sera un guide de l'Euro, insolite et érudit. Pas mal de stats marrantes, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, les chapeaux continuent, messieurs, dames. À partir de 23h, venez jouer au directeur sportif avec l'After. Vous nous appelez au 32-16 et place ce soir au milieu de terrain. Et je vous le dis, il faut qu'on avance avant que l'Euro débute. Les 6, les 8... et les 10 au programme ce soir. Donc on va prendre le temps.
Les milieux de terrain, en gros, quoi.
Ce qu'on pourrait appeler les milieux de terrain.
Je pense, oui.
Ouais, on pourrait l'appeler comme ça. Il est 22h02. Je vous rappelle également...
Les gauchers, les droitiers, les offensifs, les défensifs, les relayeurs, les box-to-box.
Ouais, ceux qui sont bons de la tête.
Les sentinelles.
Tout dans le même chapeau.
Les créateurs.
On les met tous dans le même chapeau.
Les playmakers.
Ouais. Il y en a d'autres ou pas?
On est en train, là. Kevin, on avance. Là.
Kevin, on n'en a pas.
Toutes les équipations de milieu.
Les meneurs de jeu.
Ah, les meneurs de jeu.
Les sentinelles. Ouais.
Les meneurs de jeu reculés.
Ouais. Ouais.
On les met
les
aussi.
Les milieux récupérateurs.
Les milieux récupérateurs.
On les a tous faits. S'il y en a qui vous viennent, n'hésitez pas d'ici là. En attendant, je vous rappelle que chaque jour RMC vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France pour l'Euro 2024. On vous propose de vivre l'expérience RMC, le voyage à Düsseldorf, vol plus hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match et bien sûr vos deux places pour France-Autriche le 17 juin. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Euro par SMS au 732-16, Euro au 732-16. Bonne chance à tous. Et puis vous direz également que France-Autriche, donc c'est lundi prochain, le 17 juin, et à cette occasion, RMC débarque à Mâcon au stade Pierre Guérin. Rotten sans flamme et l'after seront dans la ville d'Antoine Griezmann en Bourgogne. Si vous voulez venir assister aux émissions Vivre le match avec Jérôme Rotten, avec Gilbert Bribois, avec Daniel Riolo, vous inscrivez en envoyant un mail à l'adresse suivante, public@rmc.fr.
Entre 19h30 et 21h, on sera pas très loin du food truck.
Voilà, il y aura food truck, il y aura buffet, diffusion sur écran géant. Ça va être une magnifique soirée à partager tous ensemble en direct de Mâcon lundi prochain. Il est 22h04. Si on ouvrait notre feuilleton quotidien des droits télé. Et aujourd'hui, rebondissement, la Fédé s'exprime. Son président, exactement. Philippe Diallo, était auditionné aujourd'hui.
C'est souvenu, c'est un mec qui est allé le voir ce matin. Il fait, vous êtes le président, monsieur.
Ah, c'est moi.
Ah, moi, je vais parler, alors.
Je crois qu'il n'a pas eu le choix, en fait. Mmh. Convoqué au Sénat par la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport sur la financiarisation du football et notamment l'arrivée de CVC, autre feuilleton enfin un peu lié, mais dont on a beaucoup parlé. On va écouter deux extraits de cette longue intervention concernant le feuilleton des droits télé, à commencer par le risque, selon Philippe Diallo, du dépôt de bilan pour certains clubs français.
Je pense qu'il faudra attendre l'issue de l'actuel appel d'offres sur les droits audiovisuels pour voir dans quelle situation se trouvent nos clubs. Nous avons eu trois années, les clubs ont bénéficié de l'apport de CVC. C'est désormais terminé. Un montant de droits qui ne serait pas en ligne avec les estimations qui ont pu être faites par la Ligue plongerait certainement un certain nombre de nos clubs dans des grandes difficultés. Si l'atterrissage de l'appel d'offres actuel n'était pas celui qu'on attend, bien évidemment que nous serions confrontés à des difficultés financières très importantes qui pourraient peut-être même amener certains à envisager des dépôts de bilan. Mais nous n'en sommes pas là.
Nous ne sommes pas là pour l'instant. Est-ce que vous voulez réagir tout de suite ? On écoute la deuxième partie.
Oh, on voit la deuxième partie.
La deuxième partie qui répond, Philippe Diallo, sur l'estimation nouvelle dont on a parlé ce week-end des 500 millions de Vincent Labrune. Donc il est interrogé sur ce nouveau montant annoncé par le président de la LFP. Écoutez, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot.
Je crois que ces propos, ils ont été peut-être pas très bien compris ou peut-être pas très bien relayés. Il me semble qu'il a indiqué que ces 500 millions qui ont été relayés par la presse sont la valorisation faite par un certain nombre de diffuseurs et un des principaux diffuseurs qui est Canal+, qui a donné cette valorisation, mais que ce n'est pas l'objectif de la Ligue qui a fixé d'autres objectifs plus importants, puisque les 500 millions qui sont évoqués là, d'autres diffuseurs, il y a déjà plusieurs mois, avaient déjà offert cette somme-là et qui a été refusée à l'époque par la Ligue. L'objectif de la Ligue, c'est un objectif plus important. Simplement, c'est la traduction aujourd'hui de diffuseurs qui estiment que le championnat est dans ce niveau de valorisation. Les droits, ils sont d'abord faits par le marché. La concurrence qui fait la valeur des droits.
Et voilà les gars, vous n'aviez rien compris, Daniel, Kevin. Vous n'avez rien compris.
Pourquoi en fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ?
Ben voilà, les 500 millions, c'était pas l'annonce du prix recherché par Vincent Labrune, c'était l'annonce des diffuseurs, c'était le prix estimé par les diffuseurs, ce qui n'a rien à voir.
D'accord.
Hashtag ironie.
Si Kevin, il décide que sa bagnole... il m'en donnera, enfin, que ma bagnole, il m'en donnera jamais plus que 5000 balles. Bah, je peux danser autour de lui, ça va être compliqué s'il veut pas m'en donner plus, hein. Évidemment que c'est le diffuseur qui fixe le prix, c'est eux qui vont sortir l'oseille.
Non, mais
c'est eux qui l'ont valorisé. Et s'il y a un spécialiste des droits de télé depuis 40 ans maintenant, c'est quand même Canal qui sait un peu où il fout les pieds quand même, non?
Mais ce qui est fou en plus, c'est qu'il y a un sport qui est le rugby, qu'on connaît quand même bien aussi sur RMC, qu'on suit tous les week-ends, en tout cas toi Thibaut. Quand il n'y a pas de lien.
Tu peux pas obligé de mytho. Hein.
Non, mais Thibaut, il le suit.
Moi je le suis, ouais.
Ah, Thibaut,
ouais.
Tu peux écouter ce que je dis.
Parfois.
Et donc Thibaut, il le suit souvent le samedi quand il n'y a pas de Ligue 1. Et en fait, c'est simple. Ce qu'a fait la Ligue nationale de rugby, ou en tout cas la Ligue de rugby professionnelle avec Canal, c'est tout simplement ce que devait faire le foot. C'est-à-dire que eux, ils ont valorisé leurs produits à un prix qui est intéressant. Ils ont aujourd'hui le meilleur championnat quasiment au monde. Et ils ont en plus un diffuseur pour de longues années. Et donc, à partir de là, on sait que la Ligue 1, ça a été peut-être survendu à un moment. Et puis, il y a eu la claque avec Mediapro. Et aujourd'hui, en fait, le football français, il est dans une impasse. Et dans une impasse, parce que comme le disait Philippe Diallo, on a aujourd'hui des contrats qui sont non pas indexés sur les droits télé, mais qui sont indexés sur la valeur salariale des quatre grands championnats. Parce que je le dis, je le répète depuis que je suis dans l'after. Daniel, t'en as parlé la semaine dernière, tu disais, ouais, mais il y a des pays où ils ont pas de droits télé et ils se portent
très bien. Ils en ont, mais beaucoup moins.
Tu sais, c'est quoi les droits télé du championnat néerlandais ? Dis-moi un prix. Pour tous les clubs.
30 000.
Attends, non, c'est moins de 100 millions et on doit être à 60 maintenant.
Non, on était à 90. Ah. 90 et là, je pense que ça doit approcher.
T'étais
peut-être
dans le vrai sur les moins de 100, mais
on est à 90 millions. Pas autant. On est à 90 millions pour l'ensemble des équipes.
Ouais, les 18, c'est ça, c'est 18.
Et, ouais, ils sont 18, ouais. Et par contre, il y a des droits aussi pour l'équipe. Il y a aussi la Ligue 2 qui a très peu de droits, mais qui en a aussi. Et donc aujourd'hui, bien sûr que tu peux travailler sans droit télé. Mais par contre, c'est un travail qui va être long, ne serait-ce que faire rentrer dans la tête des joueurs, dans la tête des entraîneurs, dans la tête des agents ou des conseillers que aujourd'hui le foot français vit au-dessus de ses moyens. Et c'est quand même, ça fait quand même plusieurs années qu'on le dit, puisque à partir du moment où déjà tu as une économie qui doit être viable, à partir du moment où tu arrives à vendre des joueurs, c'est que ta compétitivité, elle est compliquée.
Oui, ben elle est compliquée. Ce que tu dis est très juste. Et je l'ai dit et tu as raison. Il y a quand même un point qu'il faut préciser, c'est que quand t'es habitué, quand t'as vécu avec ce genre de droit, t'es structuré pour. Quand tu as eu beaucoup de droits télé, que donc ton train de vie, ta structure de club, elle est construite avec plus de droits télé et que d'un coup, on ferme le robinet, là, il y a un paquet de clubs qui ont des joueurs sous contrat, des masses salariales élevées.
Est-ce que je te dis?
Où là, le réveil, le 12 août, enfin le 19, je sais plus quand est-ce qu'on reprend le championnat, où là, ça peut être, tu prends une porte dans la gueule, quoi. Il y a des gens qui peuvent ne plus être payés. Il va falloir vendre des joueurs limite au rabais parce qu'il va falloir alléger les effectifs et les masses salariales.
C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, quand tu vis au-dessus de tes moyens, le jour où les moyens ne sont plus là, voilà. Et ben là, t'as des gros problèmes. Bah,
c'est comme le mec qui s'est acheté 3 appartements parce qu'il avait un salaire. L'air, machin, elle avait gagné au loto et tout, et d'un coup, ben non, t'es viré, t'as plus rien. Bim, faut payer les crédits et t'es à la rue. Pour en revenir donc aux déclarations, on va pas trop faire long ce soir sur la droite télé, on fait un feuilleton tous les soirs. Bon, j'imagine quand même que ça intéresse les gens qui nous écoutent parce qu'il faut bien comprendre que c'est vital en vrai. Hein. C'est une fou. Parce que, tu sais, en fait, on l'a jamais dit, mais même pour nous, en fait. Imagine, Thibaut, on est le 19 août, enfin, j'arrive pas à l'imaginer parce que même au rabais ils seront vendus les droits télé.
Que tu veux dire, tu veux qu'on puisse pas voir les matchs?
Bah ouais.
Ouais.
Ah bah oui. On peut même pas en parler nous.
On imagine même pas.
Nous on peut aller sur un stade en même temps. Autant grâce à la télé on peut voir plein de matchs. Mais
on a eu un petit avant-goût France Canada dimanche soir le premier quart d'heure qui n'était pas diffusé. Oui. On a été un peu dans cette situation.
C'est vrai. Mais c'est toute l'économie du football qui dépend de ça. C'est pour ça que le diffuseur finalement il faut quand même un peu le chouchouter parce que c'est tout l'écosystème du football qui repose dessus.
Ou alors il faut d'autres sources de revenus.
Oui, enfin non, mais le fait de voir le championnat, en-delà des autres sources, ça t'as raison, c'est pour l'équilibre du budgétaire d'un club dont tu parles. Mais moi je te parle pour tout le reste, pour les gens qui suivent et qui ne vont pas dans les stades. Il y a des supporters de l'OM qui ne peuvent pas aller voir Marseille parce qu'ils habitent à.
Oui, non, mais que la Ligue 1 soit diffusée, même le. Parce qu'il faut quand même savoir que, et c'est pour ça que je parlais du rugby, il faut quand même savoir que le basket français, qui est quand même un grand sport en France.
Il y a rien.
Le basket, maintenant, il y a Squeak.
Une poignée. Ouais.
Mais jusqu'à il y a encore, il n'y a pas si longtemps, il y avait plus de diffuseurs pour le basket français, pour la première division. Peut-être que les footeux qui suivent l'after ne sont pas au courant, mais c'est quand même un grand sport en France avec beaucoup de licenciés. Et il y a eu aucun diffuseur, là, il y a encore quelques mois ou quelques années.
Absolument.
Donc, bien sûr, ça n'arrivera pas au foot, mais ça n'arrivera pas au foot jusqu'à ce que ça arrive, en fait. Donc, tant que.
Dans 2 mois. Donc, pour en revenir.
À Diallo ce soir.
C'est la première fois, quand même, qu'on entend, parce qu'on ne l'avait pas encore entendu, la possibilité de faillite pour certains clubs. Je me demande quand est-ce que certains vont sortir du bois. Nicolin est sorti hier de façon un peu maladroite, mais néanmoins, il y avait quand même du sens dans ce qu'il disait, parce que on sentait qu'il commençait à y avoir la panique. Kita commence à s'affoler aussi beaucoup. Et là, je me dis, on entend Nicolin, Kita, ceux qui sont en train de s'affoler, c'est les petits. Et là, on est en plein dans ce que j'ai toujours reproché au football français. C'est le chacun pour sa gueule. Au lieu de penser, j'ai l'impression vraiment de me répéter, ça fait tellement d'années, que sur le business, il faut que tout le monde s'entende pour faire grossir le produit et le valoriser. Là, t'entends des mecs, des présidents qui disent, écoute, nous, dans le bilan, on devrait s'en sortir. Parce que si t'es un club européen, les droits internationaux, c'est toi qui les croques, en fait, quand t'es un club européen. Donc, tous ceux qui sont pas européens, que dalle. Mais par exemple, j'en sais rien, moi, Lille, par exemple, ils auront des thunes, des droits européens. Et puis, ils avaient touché un petit peu plus par le biais de CVC. Donc, eux, ils peuvent se retourner un petit peu. Mais les Nantes, Montpellier, donc, on va avoir un fossé énormissime dans la Ligue 1, déjà qu'il est assez important, mais il y a un tas de clubs qui sont quasiment à la rue si ça bouge pas. Même la somme de 500 millions vaut mieux ça que rien, mais je peux t'assurer, quand tu vas faire les divisions, quand tu vas répartir entre notoriété et résultat, il va pas rester lourd. Donc oui, la situation devient très préoccupante, et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'on n'entende pas les gens parler. On n'entend pas les présidents venir.
Tu veux qu'ils viennent pour dire, bon, c'est vrai, vous avez raison, on s'est trompé. C'est pas trop leur genre.
Écoute, peut-être pas, mais un président un peu... Le problème, c'est qu'on n'a pas de président emblématique. Pendant un moment, t'avais Aulas qui pouvait un petit peu prendre les devants et dire... Je sais pas, on sait que lui, par exemple, pouvait être en lien avec Canal, avec les diffuseurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Moi, je suis affligé du fait que l'OM ne dise rien. C'est pas possible que ce club ne participe à aucune réunion, discussion, il n'y a rien. En termes de tout, c'est le deuxième club français avec une notoriété incroyable. D'abord, déjà, ils se sont fait fourrer sur CVC avec la somme qu'ils ont pris. Et là, quand tu vas vendre quoi comme projet à Conceição, s'il te manque d'ores et déjà 30 millions dans les caisses parce que t'as pas ça et rien. Il y a pas de club phare, de club leader. Alors on va me dire, le PSG. Mais le PSG au fond, qui est finalement le club, Nasser, c'est lui qui dirige la ligue puisque La Brune est devenue son laquais. Mais eux en fait ils s'en foutent. Parce que d'abord, il y a CVC, ils ont pris une part énorme. Deux, il y aura l'argent de la Ligue des Champions, des droits télé de la Ligue des Champions. Parce que ce que Canal a donné pour obtenir les droits de la Ligue des Champions, c'est très important. Et il faut savoir aussi que les équipes qui sortent de la phase de poule prennent une part de gâteau beaucoup plus importante. Et tu sais, si tu n'as jamais été éliminé en barrage, comme beaucoup d'équipes, par exemple l'OM, quand ils ont été éliminés en barrage, les deux qui ont fait la Ligue des Champions ont pris une part de gâteau plus importante. Ouais. Donc en fait, dans le chacun pour soi, le PSG du bon.
Non mais ça va.
Nous on s'en fout de toute façon. Là, ils n'ont jamais œuvré pour une répartition plus importante à Paris. Donc ils préfèrent qu'il y en ait 10 qui traînent dans le caniveau. De toute façon, la Ligue 1, ils la gagnent de toute façon. Ça leur sert d'entraînement pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions, ne l'oublions pas, qui a changé de formule, où tu vas démarrer en septembre pour terminer fin janvier, où c'est une sorte de championnat qui va te demander un petit peu plus d'énergie,
plus de matchs.
Donc le PSG, la Ligue 1, tu sais, tu viens les débats sur la Super League. Ouais. En fait, eux, ils se sont déjà. Le PSG a déjà muté en Super League. Avec la Ligue 1, où finalement, déjà, qu'ils s'en foutaient un petit peu. Là, ils vont s'en foutre encore plus pour mettre leur force. Ils ont les droits télé de la Ligue des Champions, les droits télé de CVC et les droits internationaux. La plus grosse part va aller dans leur poche. Donc, tous les autres sont en train de se faire fourrer et il n'y en a pas un qui parle. Il n'y en a pas un qui parle.
Parce que
Textor, il n'est pas sur le dossier. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Textor, tu sais qu'il est bon dans ce dossier-là. Il a eu dans ses business ses histoires de droits télé, tout
il
ça.
A beaucoup, il a peut-être beaucoup de trucs à gérer lui aussi.
Mais à un moment, si on n'a pas de président.
Et là, tu parles de partager, tu parles de partage, tu parles d'égoïsme. Mais on ne parle même pas des clubs qui sont en Ligue 2. Et je ne te parle même pas de ceux qui sont en dessous. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que par le biais de la taxe Buffet, c'est tout le sport amateur qui était également arrosé.
Exactement.
On va s'arrêter là pour ce soir. Suite évidemment demain dans l'after, prochain épisode et sur rmcsport.fr. Donc, toutes les informations,
bien évidemment. Parler, on est là.
Voilà. Qu'ils n'hésitent pas.
S'ils veulent lancer un message.
Le 32-16.
Et au point ils en sont, qu'ils aillent pleurer devant la porte de Canal, ils peuvent y aller. Hein, parce qu'ils vont sauver tout le monde. Mais je répète, sur le dossier, ce serait que le président s'en aille. Si l'Orléanais veut retourner à Orléans ou à Saint-Rémy, puisque voilà, au bord de la piscine, là où il est le mieux finalement.
22h18 les gars, c'est l'after, Daniel Riolo, Kevin Diaz. On a du live ce soir, Kevin, par les baskets. On va connaître le champion peut-être, très probablement ce soir, notre champion de France de basket. Le match 4 de la finale entre Paris et Monaco. Salut Arnaud Valadon.
Salut messieurs, ah oui, t'as raison Daniel de dire là, puisqu'il y a presque 40 points, plus 37 pour Monaco alors qu'il reste 4 minutes dans le troisième quart-temps. C'est une boucherie monumentale, 82-45, il y a 2-1 sur cette série, c'est au meilleur des 5 rencontres, donc ils vont plier l'affaire, les Monégasques. Alors Jérôme Bretel était venu il y a 2 jours, on a aussi annoncé sa présence à l'Adidas Arena parce que le match se joue à Paris dans cette magnifique salle de 8000 places.
Est-ce que Steve Brun est dans l'assistance?
Alors Steve Brun était là, je crois qu'il est là. Oui. Il y a Lilian Thuram qui est un très grand fidèle, tu sais, de ce Paris Basketball, de cette salle magnifique de
Lionel Jospin aussi.
Lionel Jospin aussi, effectivement, qui a toujours aimé le basket, qui a joué au bataillon de Joinville durant sa jeunesse, qui venait toujours pour les grands rendez-vous avec l'équipe de France, Génération Tony Parker notamment. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Faut que tu viennes, Daniel. C'est une très belle salle.
Je propose que tu nous amènes Steve Brun à la fin du match, là, d'une petite analyse. Il avait prévu la victoire de Monaco dès ce soir, c'est important.
Oui, je crois qu'il avait dit en 3-1 la victoire finale.
Ça va.
Il peut. Donc je lance l'invitation.
Autre star présente ce soir, Oussem Loussaïef également.
Ah, il y est aussi.
Dès qu'il s'agit de croquer.
On m'avait invité, mais j'ai un travail.
Il y en a qui bossent.
On voulait me faire découvrir l'Arena,
l'Adidas Arena. À tout à l'heure, Arnaud, pour le sacre de Monaco. Et puis, on a de l'athlétisme, les championnats d'Europe qui se terminent ce soir à Rome, avant de basculer sur l'Euro de foot. Aurélien Tiercin est là-bas avec encore une bonne nouvelle ce soir. Salut Aurélien.
Salut les amis, deux nouvelles médailles ouais, pour l'équipe de France et c'est pas fini. Yann Schrub, notamment vice-champion d'Europe du 10 000 mètres. Jimmy Gressier, qui était un des autres grands favoris français, a des petits problèmes au tendon. Il finit cinquième malheureusement pour lui. Et puis Anaïs Bourgoin, toute première sélection en équipe de France.
Ah, je l'ai vu sa médaille.
Eh ben oui, elle va chercher bronze sur 800. Daniel, elle a 27 ans et a fait une course monumentale, notamment en demi avec un chrono en 1:58.30. Donc là, ça commence à être très très sérieux. On peut même rêver des Jeux Olympiques. Alors malheureusement, les deux relais 4x400 se sont un petit peu cassés les dents ce soir. Quatrième pour les garçons, cinquième pour les filles. Mais il nous reste des espoirs, notamment Thibaut Collet au saut à la perche. Alors la première, vous le connaissez, c'est Armand Duplantis. Il y aura pas de suspense pour la première place, mais la médaille d'argent, pourquoi pas pour Thibaut Collet. Il nous reste également Asdin Habs, l'oublié de la Fédé sur les listes administratives, qui a été repêché par European Athletics. Lui fera face au Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Et puis on aura également le 4x100 féminin, là avec un petit peu moins de chance de médaille, mais c'est d'ores et déjà le troisième championnat d'Europe le plus réussi de l'histoire de l'équipe de France. Et ça, c'était quand même incroyable à quelques semaines des Jeux.
15 médailles là, c'est ça pour l'instant.
15 médailles, oui.
Et c'est pas fini. À tout à l'heure. Aurélien, 22h20, pause et on se retrouve en direct dans l'after avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et l'Euro J-2. Les dernières infos sur place avec Nico Pelletier. On parle arbitrage notamment. On connaît les directives et puis les bleus au programme. Quelle animation offensive. On écoutera Antoine Griezmann et on vous attend au 32-16 pour en débattre. A tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes jeudi le 12 juin, il est 22h23. Vous écoutez l'after, RMC, première radio de France à cette heure-ci. Merci d'être là. Kevin Diaz et Daniel Riolo en direct jusqu'à minuit à suivre. Débat équipe de France, quelle animation offensive pour les Bleus. France-Autriche, c'est dans 5 jours. On vous attend nombreux au 32-16. Et justement, à deux jours du début de l'Euro, Allemagne-Écosse, ce sera à Munich, vendredi soir sur RMC, et avant l'aspect sportif. On a eu des conférences de presse aujourd'hui concernant l'arbitrage, notamment, on va en parler dans un instant, et la sécurité. Et Nico Pelletier est sur place en Allemagne. Comment ça va, Nico ?
Salut les amis, salut à tous.
Bon, c'est comment là ?
Il est déjà là-bas, Nico.
Ouais, J-2,
Depuis lundi, Daniel.
Bah, je sais, mais t'as fait quoi tout ce temps-là ?
Bah, du reportage pour le site, pour les antennes, pour la matinale, pour tout le monde.
T'es à Munich là, c'est ça?
Et ça y est, ça se prépare.
Je suis à Munich. Bah, ça se prépare, ça monte tout doucement. Alors, depuis lundi, on voit pas tellement de supporters, notamment écossais, hein, parce que c'est quand même le premier match Allemagne-Écosse vendredi. On voit pas beaucoup de supporters écossais. On a un peu plus vu aujourd'hui autour du stade à Munich, beaucoup de supporters écossais qui prenaient des photos. Sûrement demain, les journalistes écossais nous disaient qu'il y a un gros arrivage demain en fin de matinée depuis l'Écosse. Mais pour l'instant, l'ambiance est un peu calme dans les rues de Munich.
Un peu comme en Munich, France, tu trouves ça comment?
Bon, c'est l'Allemagne, quoi.
Non, t'abuses. Munich, c'est pas mal.
Ouah, c'est pas mal.
Oh non,
pas
la
mal,
Bavière, c'est chouette.
Bah, c'est bien. Fais confiance. C'est-à-dire que si d'après Daniel, si t'as vu Munich, t'as tout vu, c'est ça? Munich, c'est
Top. Oui,
mais l'Allemagne,
j'aime bien, je préfère
l'Allemagne,
Berlin.
Franchement, c'est un beau pays. Il y a des villes, ok, un peu dans le nord, un peu tristoun. C'est sûr, tu vas pas t'éclater à Dortmund, à Bochum, tout ça. Mais l'Allemagne, même la côte dans le nord, c'est pas moche, hein.
Oh, mais Nico, il est plus,
moi,
c'est les Baléares. Nico, c'est les Baléares, les Canaries.
Moi aussi, évidemment. Moi, quand il y a pas de soleil, je dépéris.
Moi, c'est la Corse.
Oui, je sais, Nico, mais c'est pas si moche que ça.
Bon, allez, les gars, le temps passe. Nico, on va parler de l'arbitrage dans un instant. Mais d'abord, parle-nous de la sécurité. Évidemment, question cruciale, on en parle beaucoup en ce moment, et notamment en Allemagne, la menace terroriste est là, bien évidemment, le hooliganisme, la désinformation, l'Ukraine, il y a beaucoup de sujets cette année pour l'Allemagne.
Exactement, alors la menace terroriste, on l'avait déjà eu à l'Euro 2016 avec les attentats de 2015 à Paris, donc on connaît un peu, l'Allemagne est un peu comme la France avec une menace terroriste très forte. Mais la grande crainte des policiers que l'on a pu rencontrer ces dernières heures, c'est surtout les regroupements de hooligans en amont et après les matchs de Coupe d'Europe, là pendant ces prochains matchs, là, les 51 rencontres qui auront lieu en Allemagne. Et donc on a très peur d'un regroupement de hooligans sur les groupes Telegram de hooligans. On prépare déjà des fights, hein, ce que l'on appelle un fight dans le mouvement hooligan, des fights entre différentes nations, surtout des pays de l'Est qui appellent à venir faire des fights en Allemagne. Donc des mesures renforcées pour le contrôle aux frontières, par exemple. Des Anglais, 1500 Anglais ont été interdits de quitter le territoire considéré comme ultra-violent. Donc voilà, il y a beaucoup de craintes autour du hooliganisme. Et puis la désinformation, c'est surtout lié à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il y aura l'équipe d'Ukraine ici en Allemagne. Elle aura des mesures de protection renforcées, des mesures de protection aussi individuelles quand les joueurs et le staff sortiront pour aller s'entraîner. Donc voilà, c'est tout un schéma d'organisation de la sécurité ici en Allemagne. C'est ce que nous disait aussi beaucoup de monde à l'UEFA, c'est aussi la première compétition avec autant de conflits dans le monde. Il y a le conflit entre l'Israël et la Palestine. Il y a aussi cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, énormément de conflits. Et donc, on aura sûrement des messages politiques dans les tribunes lors des premiers matchs.
Il y a eu un point arbitrage également, Nico. Bon, on parle de petite révolution. Enfin, j'ai lu des papiers là-dessus. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça concernant le VAR notamment?
On est d'accord. Ouais, on est loin d'une révolution. Déjà la bonne nouvelle, peut-être que Daniel va me contredire, mais c'est qu'on aura Clément Turpin vendredi lors du match d'ouverture au sifflet.
Cette année, les arbitres français ils croquent. Hein.
Et François Le Texier à la VAR, donc voilà, deux arbitres français pour
cette... Le Texier Turpin, cette année, ils ont régalé, moins en Ligue 1, et au niveau européen, ils ont bien régalé.
Et Roberto Rosetti, le patron de l'arbitrage à l'UEFA, nous a dit, c'est un très bon arbitre international, donc voilà, les louanges pour Clément Turpin. Et donc oui, alors une révolution, on est quand même loin d'une révolution pour l'arbitrage. Il y aura deux éléments importants. Tout d'abord, l'arbitre aura le droit d'échanger avec un seul joueur, ça sera le capitaine lors des rencontres. Un seul joueur aura le droit
si
de venir
viennent,
et de
s'appre...
Carton jaune, c'est comme ça.
Le premier qui s'approche, qui ne veut pas, puis il prend un carton jaune.
Exactement. Roberto Rosetti nous a dit aujourd'hui, c'est carton jaune. Le premier qui s'approche, c'est carton jaune. Et en fait, cette mesure, il y a quelques mois, j'avais fait l'interview...
On l'a beaucoup dit, ça s'est entendu il y a des années. Hein, on va vraiment le voir, ça.
Ben, nous, il nous a dit que ça sera en place lors de cet Euro dès vendredi. D'accord, premier qui s'approche, si c'est pas le capitaine, si c'est le gardien qui est capitaine, par exemple Donnarumma avec l'Italie qui est capitaine, ça sera un joueur qui sera le représentant sur la pelouse, qui sera désigné juste avant la rencontre. Mais si un autre joueur s'approche, c'est carton jaune, et c'est ce que nous a dit Roberto Rosetti aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une petite évolution. Les arbitres français,
excellent, en début.
C'est plutôt pas mal.
En tout cas, ça va ressembler, je disais tout à l'heure, à ce qui se passe au rugby, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de respect pour l'arbitre, puisque moi y compris, on sait que nous les joueurs, en fait, c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui sur un terrain de foot de se maîtriser, de se contrôler. Ouais. Donc,
sauf si t'as la carotte du carton.
Voilà. Enfin, plutôt le bâton du carton.
Oui, ou le. Oui.
Mais en tout cas, c'est un jingle, ça ou pas?
Non.
Mais en tout cas, je pense que malheureusement, c'est pas le football que je préfère, mais il va falloir un football un peu plus aseptisé parce que sinon, ça ressemble plus à grand chose, et notamment dans le monde amateur pour les arbitres. Ouais.
Et surtout, Kevin, dans une compétition comme l'Euro, les cartons sont hyper importants parce qu'une accumulation de cartons te fait louper un match très rapidement. Et donc, c'est ce que Rosetti a aussi expliqué, c'est que prendre un carton jaune dès le premier match, ça peut aussi avoir des conséquences très rapidement lors de cet Euro. Il nous a aussi expliqué qu'une personne qui serait, par exemple, je sais pas, un tacle, ça s'embrouille à terre, et une personne qui vient et qui fait juste le geste à l'arbitre de donner un carton, ça aussi, normalement, ça sera carton jaune pour la personne qui demande le carton.
Ah ouais, ça va tomber dans tous les sens, là.
Ça peut pleuvoir des cartons dans tous les sens.
Mais ça, c'était déjà le cas. On n'avait pas le droit de réclamer un carton.
Ouais, Kevin, les trucs dans le foot qui étaient déjà le cas, on les connaît. À l'arrivée, c'est pas comme ça que ça se passe.
Ouais, mais d'accord. Mais bon, c'était déjà dans la règle.
Oui.
T'étais pas censé demander un carton.
Ce que je veux voir, c'est la mise en pratique, moi.
En début de saison, on avait discuté avec Stéphane Lannoy, l'ancien patron de l'arbitrage professionnel à FFF. Il voulait mettre ça en place en Ligue 1. C'était une consigne de nos arbitres. On l'a pas du tout vu en Ligue 1 cette saison. Ouais. Et donc, il y aura la deuxième nouveauté de cet Euro 2024. Ça sera une meilleure communication autour de la VAR. Alors, par exemple, on est dans le stade. Ça va s'afficher sur grand écran très rapidement, décision de la VAR. Par exemple, on nous a montré un exemple aujourd'hui. Ça sera une explication beaucoup plus détaillée qu'on a l'habitude. Il n'y aura pas juste marqué recours à la VAR. Il y aura par exemple marqué penalty, faute de main, le joueur numéro tatata de l'équipe de France a touché la balle avec sa main gauche, qui était dans une position pas naturelle au-dessus de son épaule. Et donc,
mais
vraiment,
elle va tomber quand l'explication, à quel moment?
Ça va aller très rapidement parce que l'arbitre doit le signaler à la VAR qui est basée à Leipzig, donc à plusieurs kilomètres du stade. Et donc, ce qu'il signale dans le micro à l'arbitre assistant VAR, ça sera automatiquement noté sur l'écran géant du stade et signalé aussi aux journalistes et aux diffuseurs. Donc très rapidement, donc c'est ce qu'on nous a expliqué. On sait que la VAR, ça met souvent une vingtaine à trentaine de secondes, même quand l'arbitre va voir l'écran. Donc ça sera signalé très rapidement et on nous a montré un exemple aujourd'hui. C'est vrai que c'est signalé assez rapidement. Donc on n'aura pas l'arbitre qui signale dans tout le stade, comme on a pu le voir par exemple au Maroc lors de différents tests avec l'arbitre qu'on entend dans tout le stade. Mais là, ça sera marqué sur les écrans géants et ça permet une meilleure compréhension selon le patron des arbitres.
Bon, du coup, ce qu'on retient, c'est que ce week-end, pour ces premiers matchs, ça va cartonner sévère, le temps que tout le monde se fasse à la règle. Merci beaucoup, Nico. Bonne soirée.
Et petite précision, et ça revient au premier débat. Il y a beaucoup de journalistes allemands qui m'ont demandé sur les droits TV en France, parce que pour eux, c'est une bonne idée de prendre certains joueurs au rabais pour les clubs français. Donc voilà, je voulais le signaler quand vous entendez votre débat.
Ils sont à l'affût.
Et donc ils sont à l'affût.
Ah, tu veux dire qu'ils attendent la grande braderie?
Ah bah oui.
Exactement.
Pour la réforme de l'arbitrage, la nouvelle sévérité, il est sympa Rossetti, il a attendu la retraite de Verratti pour mettre tout ça en place. Sinon, je pense que dès le deuxième match, il n'était plus là.
ça doit être l'explication.
Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi qui aimes un football un peu entre guillemets à l'ancienne? Mais malheureusement, c'est un peu comme l'histoire des supporters, il y a un moment, il faut y venir en fait.
Je veux voir comment ça se passe. L'histoire du VAR, là, de toute façon, ça reste du gadget, ça n'apporte jamais rien.
Si, non, mais le VAR, ça marche très bien dans les sports américains. Ils l'ont fait d'ailleurs au foot, en MLS.
On va refaire un débat sur
le VAR.
Je te parle pas du VAR. Daniel Riolo, je te parle d'expliquer au public la décision de l'arbitre. Ils l'ont fait au Portugal, c'est très bien.
Oui, voilà. Moi, je m'en fous. Ça c'est gadget. En revanche, l'histoire
des cartons,
pluie de cartons.
Attention, l'objectif c'est pas qu'il y ait une pluie de cartons.
Non, l'objectif c'est
que les joueurs se comportent mieux.
Eh oui. Bon, merci Nico.
Merci à vous.
Il y a Idir qui nous dit dans le chat de la chaîne de l'After, va voir le lac Constance à Munich, c'est trop beau, paraît-il.
Voilà. J'irai voir demain.
Le petit conseil supplémentaire. Il a pas le temps, il bosse Nico.
Oui.
Il se lève à 6h et se couche à minuit.
Ah oui. T'es pas venu souvent reportage avec Nico. Allez Nico, bonne soirée.
Allez, bonne soirée. Ciao
Nico. 22h34 dans un instant, les Bleus au programme. Je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui pour l'équipe de France avec petit bobo à l'entraînement, pas bien que ça nous arrive aussi. Et puis débat, quelle animation offensive pour les Bleus. On vous attend au 32-16, c'est l'After avec Daniel Riolo et Kevin Diaz. A tout de suite sur RMC.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
On passe la soirée ensemble avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec vous tous à la radio sur RMC, sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée foot. Il y en a qui réclament les chapeaux, notamment ceux de Thibaut d'hier. Sachez qu'à 23h, on fait les chapeaux des milieux de terrain.
Il était incroyable hier, Thibaut Leplat. En fait, il connaît pas le principe des chapeaux.
Il est fait comme il est.
C'est impossible. Tu peux pas être directeur sportif et laisser de côté les meilleurs joueurs européens.
Écoute. Les chapeaux, c'est chacun sa tambouille. Voilà.
Il y a Cred qui dit.
Moi non plus, j'ai pas compris, mais bon.
Cred dans le chat, il dit montrez-nous les chapeaux de Thibaut, c'est pour la science. Du coup, ce qu'on va faire, on va les envoyer directement à Science et Vie. On va pas les mettre. On fera les milieux de terrain à partir de 23h avec les drôles de dames. Soyez là tout à l'heure. Xavier Barret sera avec nous dans quelques minutes. Journaliste, auteur du guide insolite et érudit de l'Euro. Mais d'abord, en parlant de l'Euro, justement, les Bleus sont en Allemagne. Ça y est, arrivé aujourd'hui à leur hôtel Best Western Park and Spa. À Bad Lützbring.
Beaucoup moins de luxe que d'habitude.
Ouais. Ça fait un moment déjà, non?
On a baissé en luxe.
Ça fait quelques années, non? Tendance.
Non.
Non?
Pas comme là, vraiment. Là, on est limite. C'est limite un hôtel où Kevin peut aller en vacances.
Quoi. Non, mais moi, pareil, j'ai l'impression que Best Western, je peux y aller, quoi. les Bleus jouent contre. C'est pas mal. L'Autriche dans 5 jours.
Star du foot.
Pas trop.
Qu'est-ce qui fait star du foot? C'est quoi?
Le Palace, quoi.
Eh oui.
Star du foot.
Ah, je sais pas, tu te souviens pas où ils étaient les années d'avant, même au Qatar. Au Qatar, ils étaient.
Ah, je me souviens pas.
Ils étaient à l'Ibis.
Il y en a pas au Qatar des Ibis peut-être.
Mais ils étaient dans un truc luxueux.
Ouais, mais là, ça va, ça doit quand même être correct, non?
Oui, ça va. Je pense qu'il y a pas des punaises de lit dans la chambre.
Non, normalement ça devrait aller.
C'est juste que c'est étonnant par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir.
Alors aujourd'hui les Bleus,
c'est un peu terne,
sont arrivés.
Une forme d'austérité.
Peut-être en prévision de l'argent qui rentre en
Maintenant, tu sais que les clubs de Ligue 1, ça y est, ils vont plus au Novotel. Hein. Maintenant, les clubs de Ligue 1, ils vont en Campanile comme les clubs de National 2.
Là, c'est à finir en Formule 1.
On rigolait, mais ils vont tous prendre la carte courte paille de Flo Gautreau.
Exactement.
Voilà. Il avait raison avant tout le monde.
Ils vont y aller en bus, ils vont s'arrêter sur le chemin, sur l'autoroute au courte paille. Et ils vont terminer au Campanile sur l'autoroute.
On devrait faire ça une fois pour sourire. Qu'est-ce qui va être terminé avec les nouveaux 3 télés? Mais les avions privés, c'est fini. C'est charter ou c'est Transavia comme tout le monde.
Avion privé, genre jet privé, tu veux dire?
Bah maintenant c'est
comme celui que le maire de Lyon a pris pour aller voir les filles à Bilbao.
Pour la finale de la Ligue des Champions,
Polo,
c'est ça
a pris pour aller à Bilbao. C'était ça.
Bon, les gars, les nouvelles des Bleus.
Vous voulez placer quelque chose là?
Les nouvelles de l'équipe.
Non, vous voulez placer que le maire de Lyon et Colo a pris un jet privé pour aller voir les filles à Bilbao.
Théo Hernandez, sachez-le, a écourté son entraînement aujourd'hui. Il est rentré au vestiaire plus tôt, mais a priori, nous dit-on, c'était prévu. Il a pris un coup au genou contre le Canada. Tchouaméni a également fini la séance à part avec le préparateur physique. Giroud et Griezmann ont pris un coup à la cheville, mais ils ont fini la séance, donc ça devrait aller. Et Rabiot, lui, qui était le blessé du début de rassemblement, a participé à l'opposition en fin d'entraînement. Il y avait aussi conférence de presse aujourd'hui, Upamecano et Coman. Et tiens, pour les bonnes nouvelles, écoutons Kingsley Coman nous parler de quelque chose d'important. On sait que finalement, la première mission de Didier Deschamps est accomplie, l'esprit groupe de cette équipe.
Je trouve que c'est similaire, on est dans un groupe qui est confiant, qui est apaisé, qui rigole beaucoup, il y a une superbe ambiance au quotidien et voilà, on est vraiment prêt à se battre les uns pour les autres. Tout le monde a confiance en son partenaire et je pense vraiment qu'en termes de groupe et d'affinité, on est au top de ce qu'on peut faire. Donc l'important c'est de surfer sur cette vague, de prendre tout le positif et espérer les bons résultats.
Le groupe vit bien, évidemment. Dans 5 jours, ce France-Autriche. Quelle animation offensive pour les Bleus. 32-16, si vous voulez en débattre avec nous. Et comptons juste avant Antoine Griezmann. Il en a parlé en conférence de presse, c'était à la veille du match contre le Canada. Expliquer, tout le monde ne le fait pas en équipe de France, mais lui a parlé foot, son rôle dans le schéma actuel de l'équipe de France.
Phase défensive, avec Kylian les deux devant, deux blocs de quatre, et défendre ensemble, être compact et une équipe solide et dure à attaquer. Et après, en animation offensive, un peu ce qui est Marcus et Kylian, beaucoup de liberté, avec toujours un apport sur les côtés, mais beaucoup de liberté, et puis à moi de m'adapter, de voir ce que font mes coéquipiers pour trouver mon espace.
C'est pas méga clair non plus, hein.
En phase défensive, ça va. En phase offensive,
c'est pas super, super clair. Hein. Je sais pas, peut-être Kevin a compris mieux que nous, mais c'est pas méga clair non plus. Hein. Bon, bref.
C'est pas très clair.
On en a pas beaucoup parlé. Bon, maintenant, l'Euro approche. Hein. Lundi soir, il y a le premier match. Et effectivement, on a vu les matchs de préparation. Ça a jamais de toute façon été un 4-3-3 très net, clair, hein, l'équipe de France de Deschamps. Et là, enfin, il y avait quand même quelque chose qui semblait clair, c'était devant, t'avais un 9 qui était Giroud et t'avais Mbappé qui était sur sa gauche, qui faisait un petit peu comme il voulait, comme il a un petit peu toujours fait. J'ai lu l'interview de Deschamps cette semaine qui était assez intéressante sur comment il allait construire l'équipe et sur le rôle qu'il allait donner à Mbappé. Et en lisant l'interview, je crois qu'on a compris, et de toute façon on l'avait vu tout au long de la saison, on a compris qu'il avait clairement conscience que c'est pas, peut-être pas le Mbappé des années précédentes qu'il avait sous la main. Et que donc, il essayait de trouver la meilleure façon de l'utiliser. Une fois qu'il nous a dit qu'il construisait l'équipe autour de lui, ce qui en soi est déjà une information, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre d'idée-là, notamment les entraîneurs au-dessus de la moyenne, les fameux génies, alors que construire autour de ton meilleur joueur, c'est quelque chose d'assez basique, qui se faisait du temps de Platini, de Zidane, du duo Cantona-Papin, puisque Platini avait construit l'équipe de l'Euro 92 et des qualifs avant autour de ce duo. On voit ça on a vu ça dans énormément de pays, dans beaucoup de clubs. C'est quelque chose de somme toute classique. Sauf qu'il faut vraiment que le mec en question soit ton meilleur gars. Et aujourd'hui, il va falloir qu'il le prouve parce que la saison, elle est pas nette. Le débat autour de Mbappé et de sa position sur le terrain, cette année, on en a énormément parlé. et avec la conclusion pour certains que de toute façon, puisque Luis Enrique avait décidé d'en faire un neuf, ça allait devenir un neuf. Je me suis beaucoup opposé à cette idée, en partant d'un constat clair, net. On connaît Mbappé depuis 2017. De 2017 à 2023, si on enlève cette saison où ça s'est moins bien passé, je veux bien l'enlever, hein. On met de côté son total de buts. Allez, on va faire 2017-2023. On est tous d'accord sans débat que là où on l'a vu jouer, c'est en haut à gauche et où c'est là qu'il a principalement réalisé ses plus grosses performances. On est d'accord. Mmh. Donc, si jamais il devait devenir en neuf, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est donc une deuxième carrière qui s'ouvrirait à lui. Cette année, on en a vu, on va dire, les débuts, les prémices de cette nouvelle carrière. On est d'accord qu'on n'a pas été enchanté par ce qu'on a vu de Mbappé dans cette position, puisqu'on est tous d'accord pour dire que la saison n'a pas été bonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas bon dans l'avenir, mais il va falloir quand même qu'il nous prouve que ça peut être une position qu'il peut occuper. Pour l'instant, on n'est pas convaincus. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein. Mais je ne l'ai pas vu pour l'instant. Je suis dubitatif, mais j'ai envie de le voir. Mais en écoutant Deschamps en lisant, j'ai quand même l'impression que c'est une animation un petit peu faute de mieux, parce que il a clairement constaté que jouer sur le côté, et ça, quand on regarde un petit peu dans le rétro, c'est vrai que l'attaquant côté qui met des buts, ça a été une tendance à la mode, on va dire mode ouverte par Cristiano Ronaldo, puis Messi, où on va dire l'attaquant côté est devenu l'élément recherché. Rappelons que De Bruyne a commencé dans cette position-là avant de devenir un excellent milieu de terrain. Mais l'attaquant en haut à gauche, en haut à droite.
Hazard. Neymar.
Exactement. Et on aura tous noté qu'à un moment, ça bloque. Physiquement. Parce que ça nécessite que l'équipe soit équilibrée avec la même chose de l'autre côté. Faisons une liste un petit peu comme ça à la volée. On va pas se souvenir de tout le monde. Mais il y en a un paquet qui n'ont pas duré. On a misé dessus. Mais par exemple, Sancho qu'on a vu avec Dortmund, il partait comme une bombe atomique. Il a été bon dans cette double confrontation. Mais on va dire qu'il a plus déçu que...
Rashford.
Sterling, qui a eu des très bonnes périodes, mais qu'on voit plus, qu'on a d'ailleurs d'abord pas trop vu, puis beaucoup vu, puis beaucoup moins maintenant. João Félix, il faisait partie de cette classe-là. Énorme transfert, il s'est Sadio Mané qui est plus là, qui a été excellentissime et qu'à un moment on a essayé également de remettre un petit peu neuf, notamment Bayern, même à Liverpool ça a pu lui arriver la dernière année notamment. Mohamed Salah, on peut encore le mettre, il fait encore une bonne saison, hein, mais c'est des postes où je trouve que t'as une forme de régression au bout d'un moment. C'est des postes où t'arrives pas à rester.
Mais c'est ce qu'on a dit, et tu peux même rajouter Thierry Henry. Thierry Henry était un joueur qui était un avant-centre.
Il a démarré en haut à gauche aussi.
Qui a démarré en haut à gauche.
Et rappelle-toi quand on disait ils peuvent pas jouer avec Trezeguet ensemble.
Exactement.
Et c'était très étonnant ça.
Et d'ailleurs, moi, dès le départ de la carrière de Kylian Mbappé, quand il avait dit il faut pas me parler d'âge, on disait ouais mais Thierry Henry, non, moi faut pas me comparer, moi. La fameuse phrase que sortent tous les jeunes joueurs maintenant, moi je faut pas me comparer, mais en tout cas si on doit le comparer, c'est sûrement pas à Cristiano Ronaldo ou même à R9, c'est surtout à Thierry Henry, et je lui souhaite d'ailleurs d'avoir la carrière de Thierry Henry, même s'il est bien parti.
Il est bien parti quand même.
Il est bien parti.
Bah là, ça va. Oui.
pour toi, ça c'est une bonne question. Pour toi, il a une meilleure carrière en tout cas.
Alors, tiens, il te répond juste après, voilà, mais c'est terminé les gars.
C'est pas le débat. Là.
Monaco champion de France de basket, Arnaud Balladon.
Oh, dernier suspense insoutenable, plus 39 pour ce match 4, 115 à 76. Daniel, Stephen va venir te débriefer pour t'expliquer parce que c'est une véritable boucherie. Et en tout cas, Monaco qui mérite largement son titre, son seul titre de la saison et le doublé. Ils étaient champions l'année dernière. Et bien, ils récidivent après cette victoire 3-1 au terme de cette série face à Paris.
Merci Arnaud, à plus tard.
Alors, est-ce que c'est un poste où tu tires plus sur le physique? Évidemment, bon, on a vu Cristiano Ronaldo, lui, il a muté, mais beaucoup plus tard. Hein. Dans sa carrière, il est resté très longtemps sur le côté avant d'être neuf. Je crois que c'est vraiment à la Juve qui fait la transition au Real. Il était toujours sur le côté. Il y avait toujours un neuf puisqu'il jouait avec Benzema qui occupait ce poste-là. Entre le Messi d'avant 2015 et après 2015, il y a également pas mal de changements. Alors on me dira oui, mais il n'était pas complètement en haut à droite. Si tu regardes les cartes de comment on appelle, tu sais, la map machin truc là,
la heat map.
Voilà. Exactement, il était quand même
et surtout jeune, très en haut à droite, et puis il se recentrait, et ça a terminé où effectivement il était complètement libre. D'ailleurs, si les mecs deviennent des stars, ça se termine souvent par tu deviens un peu un homme libre. En gros, on sait pas trop quelles consignes te donner, on sait que t'es le mec qui peut faire la différence, et dans l'interview, Deschamps précise même, Mbappé, plus il est près de la surface de réparation, mieux c'est pour nous. En gros, on va pas te demander de défendre, essaye de nous mettre les buts, parce qu'on mise sur toi et on considère que t'es le mec le plus important. Pourquoi tu fais signe, Thibaut? Il y a la pub là, c'est ça?
Exactement.
Il y a la pub depuis 3 minutes.
Ouais. On voit la pub et après on reviendra avec Kevin. Je veux son avis là-dessus.
C'est exactement ce qu'on va faire. Restez là, vous êtes sur RMC 32-16 si vous voulez réagir. Xavier Barré nous rejoint, auteur du guide insolite et érudit de l'Euro. Vous êtes sur RMC avec Daniel et Kevin. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Merci de nous avoir choisi Daniel Riolo, Kevin Diaz en direct jusqu'à minuit à suivre les chapeaux de l'after, les milieux de terrain. Ce soir, on vous attend au 32-16, bien évidemment, pour en débattre. On va conclure sur l'équipe de France avec Xavier Barré qui nous a rejoint. Salut Xavier.
Salut Thibaut, bonsoir à tous.
Bienvenue dans l'after. Tu es venu avec ton guide de l'Euro, le guide insolite et érudit de l'Euro. On va en parler dans quelques instants avec toi. Merci d'être là et d'ailleurs n'hésite pas à participer au débat. On est sur l'animation offensive des Bleus. On a entendu Daniel il y a quelques instants. Dans un instant, Thomas également va donner son avis au 32-16.
Attends, juste avant que Kevin réponde, parce que je vois passer 2-3 messages sur le chat. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des
chaîne
gens
YouTube.
Soit ils font exprès de pas comprendre, soit il faut qu'ils branchent quelque chose dans le cerveau. Mmh. Quand ils disent donc si Deschamps fait jouer Mbappé en 9. Ça veut dire qu'il est neuf comme a fait Luis Enrique, donc ça veut dire que c'est un neuf. Mais attendez, entre 2017 et 2023, il a joué où Mbappé ? Sa révélation au monde en 2017, toutes ses performances, c'était bien sur le côté. Mmh. Il a encore, dans sa vie, jamais joué neuf. Si jamais il devait muter et devenir un neuf, ce serait une grande nouveauté.
Enfin,
ce serait un changement dans sa carrière.
Il n'a pas jamais joué neuf. Cette saison, il a été mis neuf pas mal de fois quand même.
Entre
2017 et 2023.
Si tu veux parler de cette saison, oui. Parlons-en. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire que cette saison, il a été décevant. Que ce soit d'ailleurs sur le côté ou en neuf.
Oui.
Donc, si jamais il devait devenir neuf, c'est pas parce que il serait un neuf puisqu'il ne l'a pas été pendant toutes les années où il a émerveillé le monde. C'est plutôt par défaut. C'est ce que j'essayais d'expliquer et que visiblement certains ont du mal à comprendre. C'est qu'à un moment dans ta carrière, les joueurs qui jouent là ont visiblement du mal à le faire 5 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans. Je sais pas, lui, il l'a fait.
Mais c'est l'explosivité après. Et puis il y a aussi le fait que. Mais
je suis d'accord avec toi. Visiblement, certains veulent pas comprendre ça.
Et pour te répondre, il y a un moment où, quoi qu'il arrive, que tu sois Mbappé, que tu sois même Cristiano Ronaldo, t'es plus le même joueur à 30 ans que tu étais à 20. Et d'ailleurs, Ronaldo a carrément, lui, changé son football. Mais même Kylian Mbappé, on le sait.
Donc ça se trouve début. Là, à 25 ans, il a déjà perdu, tu penses, possiblement son explosivité.
C'est pas la question. C'est pas que tu perds ton explosivité. C'est que, après, il va continuer de perdre de l'explosivité et de la vitesse. Et les adversaires, ils s'adaptent.
Eh bien sûr.
Mais les adversaires, tu crois que t'es au niveau, il y a des analyses. Quand on dit que déjà Monaco, il y a 2 ans, tu te rappelles de cette victoire au parc de Monaco, qui avait très bien à l'époque où Damien Perinel venait de signer là-bas, t'avais fait la blague de savoir il y avait l'effet Perinel, etc. Ils avaient très très bien bloqué Kylian Mbappé à 2, à 3 des prises. Qu'est-ce qu'a fait Dortmund? Mais Dortmund, ils se sont régalés avec Mbappé. Ils l'ont pris à 2, ils l'ont pris à 3, en phase de groupe aussi.
Pour et il pas, a et faut expliquer, ça n'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec une affaire d'effort. Ouais. C'est des mythos, ça. L'effort défensif, le mec qui doit défendre et tout ça. Quand t'as Mbappé qui était aussi performant,
Quand t'as un mec qui est capable. C'est quand même corrélé parce que aujourd'hui le football
Mbappé n'a jamais réellement défendu. D'accord. Cristiano Ronaldo non plus. Les mecs étaient tellement forts offensivement que tu pouvais te passer travail-là.
Justement.
Ça aujourd'hui, c'est une fausse excuse.
C'est pas une fausse excuse. Là, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
qui sont les mecs de côté qui ont beaucoup défendu.
Attends, laisse-moi te répondre. Et qui sont les mecs de côté qui ont mal fini aussi?
Beaucoup.
Donc
parce qu'au bout d'un moment, visiblement, ils ne peuvent plus.
Il y a un moment, la réversibilité aujourd'hui dans le foot, elle est accrue par rapport à il y a encore 10 ou 15 ans. Cette fameuse transition permanente. Et donc, c'est dans la transition que tu marques des buts. Tu sais que la majorité des buts sont marqués moins de 5 secondes après la récupération. Et je vais te dire, aujourd'hui, c'est même plus la transition qui te fait marquer des buts. C'est la transition de la transition.
Absolument.
C'est-à-dire que l'équipe de France a le ballon. Elle perd le ballon. Donc l'équipe adverse est en train de partir en transition. Et donc elle se désorganise. Et là, tu le récupères. Mmh. Et là, avec la vitesse, la percussion d'un Kylian Mbappé, c'est là où tu fais encore plus mal parce que le bloc adverse qui était équilibré s'est déséquilibré. Et c'est pour ça que Kylian Mbappé va devoir se réinventer.
Sauf que,
à moins qu'il arrive au Real dans une équipe qui ultra domine et qui maîtrise son sujet et qui, attention, le Real a le ballon en championnat. Mais d'accord. Mais le Real, c'est aussi en Ligue des Champions jouer sans le ballon. Et c'est ça où ils sont forts.
Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il sera aussi fort ?
Mais peut-être
pas. Quand je dis que c'est pas un œuf, parce que les mecs qui ont fait cette transition, t'en connais qui ont été meilleurs après qu'avant ? Cristiano Ronaldo, à partir du moment où il est devenu neuf, il a continué à mettre beaucoup de buts, mais ça a jamais été le Ronaldo de Manchester et du Real.
Bien sûr.
C'est
pareil pour Henry et Arsenal.
Sadio Mané, quand ils ont fait à la fin, on va peut-être en faire un neuf. René. Pourquoi Xavier t'as l'air de.
Non, ça a été
rapide. Ils ont été moins performants.
Cristiano Ronaldo,
c'est plus tard dans leur carrière.
Son jeu a changé. Oui. Son jeu a changé. Effectivement, souvent, c'est ce que disait Kevin, c'est que quand tu vieillis, tu as moins de volume de jeu, donc t'es plus utile dans l'axe où ton sens du but, ton expérience te permet de faire la différence, alors que sur le côté, t'as du mal à enchaîner les efforts.
Mais t'es d'accord pour dire que, au final, quand tu arrives à cette transition, c'est par défaut. T'es pas plus fort que ce que tu étais avant.
Non, mais Kylian Mbappé ne sera jamais plus fort qu'en 2018. Ah, bah c'est impossible.
Donc c'est pour ça que je maintiens. Non, mais le gars, c'est allez, pas au fond de lui un neuf.
Non, mais
pour
c'est pas un neuf. Ce sera jamais un neuf.
Eh ben voilà. Mais merci de le dire. Merci.
Alors, Kylian Mbappé ne sera jamais. Mais ça dépend de quel neuf.
Mon propos était de dire que finalement on est en train de construire une équipe un peu par défaut. Parce que si tu avais tout le monde au top, parce qu'il faut pas oublier de préciser aussi un autre truc, c'est que Giroud aussi a beaucoup vieilli. Et que Giroud est également obligé.
Mais Giroud, ça a toujours été un neuf. Il ne faut pas comparer.
Je parle du duo. L'attaque idéale, celle qui avait, c'était Giroud, parce que Mbappé n'a jamais été aussi fort comme Cristiano Ronaldo quand il avait un bon neuf à côté. Ouais. Mais à partir du moment où tu perds Giroud dans son travail défensif, de pressing, et que tu as un Mbappé moins explosif, un Giroud qui vieillit, c'est pour ça que mon propos, quand je voulais parler de l'animation, c'est que tu es obligé quasiment de tout réinventer. À 4 jours du premier match, tu sais pas tellement, tu es obligé d'aller peut-être mettre Thuram sur le côté, mais pour le faire défendre, parce que c'est pas du tout un joueur de côté, Thuram. Il a jamais été bon dans ce rôle-là. Donc tu es obligé de compter sur Mbappé, parce que tu te dis c'est lui qui a le meilleur sens du but, c'est lui ton meilleur joueur, alors que t'en es pas complètement sûr, parce que les performances de cette année sont inquiétantes.
C'est pour dire qu'il
y a quand même beaucoup de paris.
Thomas est là, les gars, au 32-16. Salut Thomas, bienvenue dans l'After.
Salut Thibaut, salut Kevin et salut Daniel.
Est-ce que
salut,
tu rejoins Daniel sur son inquiétude et cette animation un peu par défaut pour les Bleus pour cette Euro?
Complètement, on construit par défaut. Alors c'est forcément naturel de construire. Moi je suis pas choqué qu'on dise aujourd'hui on construit autour d'Mbappé. Forcément, c'est ton meilleur joueur et je trouve ça normal. Maintenant, on fait ça par défaut, puisqu'en fait Mbappé, on serait presque prêt à le mettre en neuf, mais la réponse on la connaît tous, ce n'est pas un neuf. Il joue, faut différencier le fait que ce soit pas un neuf et qu'on tente de le faire jouer neuf, mais ce n'est pas un neuf Kylian Mbappé. Mais ce pourquoi on pourrait le mettre en neuf, c'est parce qu'on a tout simplement pas d'avancement de classe internationale aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être que par défaut, Kylian Mbappé, c'est peut-être ton meilleur, alors c'est paradoxal, mais ton meilleur avançant, ton meilleur, celui qui va te
concrétiser. Si Thuram tournait un ou deux buts par match, ou si c'était, le problème, après, c'est, le vois, problème, Daniel, ce qui se poserait, c'est, Mbappé, vois si tu peux être bon comme avant sur le côté, parce que le 9, on va pas le bouger. Si on avait une star en numéro 9, un mec qui enfilait les buts,
Mais on n'a pas ça, Daniel.
Bah, on n'a pas ça.
Donc en fait, on n'a pas notre Haaland, on n'a pas notre numéro 9 de classe vraiment international qui ferait dire celui-là on le bouge pas, il est en neuf et il joue titulaire tout de suite. On peut pas. Donc après, je sais pas, on va bricoler, on va essayer de trouver quelque chose. Je pense que Deschamps n'aura, on connaît sa chance légendaire, mais peut-être il n'aura pas toujours cette chance de trouver son équipe en cours de tournoi comme en 2018. Donc j'ai peur que ce soit vraiment par défaut et qu'on bricole à chaque fois et qu'on doive se poser la question à chaque match de dire tiens, comment on va redémarrer le prochain match avec l'animation offensive. Et je sais pas jusqu'où ça va aller, jusqu'où on va se poser ces questions là, mais c'est pas forcément très rassurant. Après, il faut pas se tromper, faut pas tout miser sur Mbappé, je veux dire,
devant, c'est pas possible. Même tout bon, enfin tout bon qu'il soit, je veux dire, on gagnera pas l'euro qu'avec Mbappé. Il faut pas se tromper. Donc, il va falloir trouver une vraie animation offensive qui soit performante. Maintenant, j'avais trouvé Mbappé très bon, comme tu disais, 2017, Daniel, en association avec Falcao quand il a commencé à Monaco. Ah ouais. Mais Falcao était ce vrai neuf, voilà.
Et à chaque fois qu'il a été bon, c'était comme ça.
Non, mais de toute façon, et pour finir là-dessus,
et on va finir là-dessus. Ouais,
je sais que Thibaut c'est l'heure, mais exactement. Aujourd'hui, on ne devient pas neuf. En fait,
ouais.
On est neuf. Tu nais neuf footballistiquement, tu restes un neuf. Nzaghi était un neuf, Crespo était un neuf, Cavani était un neuf, Forlan, qui vous voulez, David Trezeguet, un neuf. Tu débutes ta carrière neuf, tu finis neuf. C'est très très rare et le seul qui est en train de se mouvoir, et encore, il a commencé en professionnel en neuf, c'est un Gonzalo Ramos, par exemple, qui lui était milieu de terrain et qui est devenu neuf, mais depuis qu'il est professionnel, il a toujours été neuf.
Oui,
donc en fait, je suis d'accord, c'est
très là-dessus. C'est très
tous
rare.
Ceux qui disent, c'est un neuf, machin, Luis Enrique, le génie, il en a fait un neuf. C'est par défaut. C'est par défaut si tu fais ça. C'est parce qu'il n'a peut-être plus le niveau pour être fort en haut à gauche. Peut-être que c'est ça.
Je remercie Thomas d'avoir été là avec nous au 32-16 France-Autriche. Ce sera lundi sur RMC. Dans un instant avec Xavier Barré, le livre guide insolite et érudit de l'Euro qui débute dans deux jours par cette Allemagne-Écosse. Et puis les chapeaux des milieux de terrain avec les drôles de dames. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Daniel et Kevin.